Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. J'ai le grand plaisir de saluer dans le studio la présence de Georges Bounba, historien et qui enseigne à l'Université d'Orléans. Il va nous parler aujourd'hui des représentations des paysans dans les calendriers imagés à Chartres. Il y a plusieurs images, nous le verrons tout à l'heure. Comme introduction, je voudrais rappeler ce qu'avait dit, souligné Émile Malle dans son ouvrage « L'art religieux du XIIIe siècle en France », que plusieurs de nos cathédrales nous présentent sculptées aux voussures ou au soubassement d'un portail, le cycle des travaux du paysan. Chaque scène de moisson, de labour ou de vendange est accompagnée d'un signe du zodiaque. Nos anciennes églises romanes, dont le pavé était si souvent décoré de signes du zodiaque, prouvent que les traditions des premiers siècles furent fidèlement conservées. Les grands calendriers sculptés au portail des églises gothiques ont donc une lointaine origine. Alors à Chartres, cher Bounba, il y a aussi des représentations du zodiaque et des calendriers imagés.
Oui, elles sont nombreuses. Rien qu'à la cathédrale de Chartres, il y en a quatre. Trois qui sont bien connues puis bien visibles. L'une dans la cathédrale, hein, c'est ce qu'on appelle le zodiaque, c'est un vitrail. Deux qui sont sculptés dans la pierre au portail royal, donc à la façade ouest, et puis un autre calendrier qui figure dans les voussures du porche nord de la cathédrale. Et puis il y en a un quatrième, alors que peu de gens connaissent, tout simplement parce qu'on ne le voit pas très bien, il est caché entre deux statues-colonnes au portail royal. Et c'est une colonnette qui est incomplète d'ailleurs, il n'y a que 10 des 12 mois qui sont représentés. La partie supérieure pour les mois de novembre et de décembre a été sciée.
C'est déjà curieux.
C'est déjà un fait curieux, mais plein d'anomalies ont été signalées depuis longtemps déjà à propos de ce portail royal et du remontage et de l'incohérence plastique de cet ensemble.
Effectivement, en tant que guide de la cathédrale, quand on présente le zodiaque du porche nord, on voit que les signes respectent un peu la ronde de l'année, ouais. Avec les six premiers signes qui montent jusqu'au zénith, et puis la deuxième moitié de l'année est représentée en mouvement descendant, et alors qu'au portail royal, c'est vrai qu'on s'y perd un peu si on ne sait pas comment sont organisées les images.
Oui, il faudrait en fait une émission tout entière, voire même davantage peut-être, sur le portail royal. Pour compléter l'inventaire que je viens de faire, il faudrait ajouter à cela qu'il existait aussi à l'Hôtel Dieu, tout proche, là où se trouve l'école Gérard Philippe, encore aujourd'hui, un calendrier peint qu'on ne connaît que par l'intermédiaire de dessins. Bien que la bibliographie ancienne signale que les peintures ont été démontées et réservées par l'administration. Mais j'ignore où elles ont pu être stockées et encore plus dans quel état elles se trouvent aujourd'hui.
Oui, parce que l'Hôtel Dieu a été détruite au XIXe siècle.
Oui, en grande partie détruite et la salle Saint-Côme dans laquelle se trouvait cet ensemble de peintures aujourd'hui n'existe plus. Mais à cet ensemble-là, il faut ajouter encore un autre calendrier. Alors celui-là, on le conserve en Italie, au musée du Bargello à Florence. Et c'est un taux d'ivoire sculpté provenant de la collection de la reine, de la collection Caran, et qui est exposé en permanence. Hein, on le voit dans une vitrine et il mesure environ 60 cm de long. Et puis à ces calendriers-là, de à peu près la même époque, il faut ajouter des calendriers peints dans des manuscrits. Et à la bibliothèque municipale, on a conservé pendant longtemps, jusqu'en 1944, Chartres, c'est-à-dire son incendie. Un psautier, alors là, bien connu, il vient de Saint-Bavon de Gand, qui était en relation de confraternité avec l'abbaye de Saint-Père-en-Vallée de Chartres. Et on le connaît, lui, parce que là, on en a des dessins qui sont conservés encore aujourd'hui à la bibliothèque municipale de Chartres. Et puis on en connaît encore un autre calendrier dans un manuscrit que, en général, depuis l'étude qu'en avaient faite les érudits locaux, Merlet et Clerval, à la fin du XIXe siècle, mais qui se trouvait à cette époque à la bibliothèque de Saint-Étienne. Il est revenu ici à Chartres et on a là encore dans un martyrologe un ensemble de dessins, à la fois les scènes d'activité habituelles et par ailleurs les signes du zodiaque correspondants.
Alors cela montre donc l'engouement pour le sujet. Est-ce que cet engouement va perdurer dans le temps ?
Oui, on a fait des décomptes. Hein. Rien que pour l'espace français d'aujourd'hui, Georges Comet a comptabilisé plus de 400 calendriers sous tout support, hein, aussi bien dans la pierre que dans le verre, que sur parchemin, que en peinture murale, 400. Et à cela, évidemment, là, je ne parle que de l'espace français. Il faut aussi prendre en compte l'espace anglo-normand. Il faut prendre en compte aussi l'espace germanique, l'espace italien, l'espace espagnol, particulièrement en Espagne du Nord. Et au total, on a quelque chose qui dépasse le chiffre de 600 calendriers. Alors évidemment, un historien est heureux d'avoir un tel corpus parce que ça permet d'établir ce qu'on appelle une typologie. On peut faire des comparaisons régionales, on peut faire des comparaisons chronologiques, on voit bien. On voit même très très bien les différences entre des calendriers italiens, des calendriers anglais, des calendriers flamands. Ça, c'est évidemment des calendriers français.
Alors, qu'est-ce qui distingue donc un calendrier italien d'un calendrier français ? J'imagine que si tous les signes du zodiaque sont accompagnés de représentations des labeurs, des paysans, il peut effectivement, dû au climat, avoir des différences.
Oui, il y a des différences. Alors, je n'ai pas encore publié cela, mais il n'est pas très difficile de montrer, grâce à des indications vestimentaires, par exemple, ou des indications d'outillage, que le calendrier du Porche Nord, ainsi que le cycle de la vie active et de la vie contemplative, hein, qui l'accompagne, constitue des images d'origine anglaise. Hein. Et bon, ça amusera peut-être les auditeurs, mais eh bien, il faut se demander pour quelles raisons nous avons aujourd'hui encore des arrosoirs de section ovalaire.
Pardono divis letitiae solebis, versibus amis volis diem decoremis, vosibus atis volis intenti festinemis. Intanto natalisio,
nous revoilà dans notre émission avec Georges Bonneba. Nous parlions de la forme d'un arrosoir. Je crois que nous parlions du zodiaque sculpté dans la pierre dans le Porche Nord.
Oui, la forme d'un arrosoir aujourd'hui encore est ovalaire. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Ça c'est l'histoire de l'arrosoir est connue. Et ça nous vient d'Angleterre. Tous les récipients qui sont représentés au Porche Nord sont des récipients de forme ovalaire. Hein. Mais on retrouverait aussi dans des détails du costume, par exemple, le petit chapeau de Robin des Bois. Hein. qui est lui aussi, on le sait bien, un personnage britannique. Bon, mais pour être moins anecdotique, on pourrait signaler qu'effectivement, en rapport avec la situation en latitude, lorsque l'on moissonne au mois d'août, comme c'est le cas dans le cycle du Porche Nord, c'est qu'on est à une latitude élevée. Et l'ensemble que nous avons là est typiquement, avec d'autres éléments évidemment, d'origine britannique. Ça, c'est un calendrier anglais. Mais à l'inverse, nous avons d'autres nationalités qui sont bien reconnaissables et on les possédait ici à Chartres. Je prends l'exemple du manuscrit 240. Le manuscrit 240, donc, venant de Saint-Bavon de Gand. Ah bon, là, je vais simplifier au maximum. La représentation au mois de décembre de la scène du boulanger où l'on voit cuire le pain dans le four, ça, c'est typiquement une représentation flamande. Mais on pourrait regarder maintenant aussi l'outillage, et entre autres, et parce que là, on a des éléments que l'on retrouve dans les données archéologiques, on a des faucilles, enfin des lames de serpe ou de faucilles, peu importe, qui sont dentées. Or ça, c'est une particularité de l'outillage médiéval flamand.
C'est ce que veut nous dire l'âne à la lyre sur la tour sud. Ouvrez donc les yeux pour observer l'image. Parce que vous parliez justement du boulanger qui cuit son pain. On n'a pas le boulanger qui cuit son pain dans le vitrail du zodiaque, ni dans les autres représentations des labeurs du paysan.
Non, on ne l'a pas parce que ces représentations dans le zodiaque et sur la colonnette sont des représentations d'origine italienne. Alors là, en Italie, on préfère représenter pour le mois de décembre. Alors exemple, le manuscrit NA4, de la bibliothèque municipale de Chartres, on a la représentation donc du cochon qui pend et que l'on est en train de découper. Et ça, on le retrouve très souvent, aussi bien dans l'iconographie monumentale que dans l'iconographie des manuscrits italiens. Bon, à Chartres, on a cette représentation partiellement sur la colonnette qui se trouve cachée par les deux statues-colonnes. Mais par contre, on ne l'a pas dans le zodiaque, car il arrive bien évidemment que l'on préfère, pour toutes sortes de raisons, utiliser une autre iconographie que celle que l'on a habituellement dans tel ou tel cycle régional.
Oui, justement, le repas de fête, c'est à la fin repas de l'année.
C'est un repas de fête. Je suis pas sûr qu'il s'agisse d'un repas de fête. C'est pas les retrouvailles de famille à Noël ou je ne sais trop quelle baliverne sur la galette des rois que de temps en temps on voit imprimé. Non, il s'agit de choses évidemment bien plus sérieuses que cela, la plupart du temps.
D'ailleurs, dans le vitrail du zodiaque, parlons de la représentation de ce qu'on croit être un paysan. Il a un curieux chapeau sur la tête, c'est pas une mitre d'un évêque?
C'est les représentations calendaires sont en général prises pour des représentations de paysans. C'est pas si simple que cela. On a, et je me J'étais contenté, il y a quelques années, de publier un article concernant les représentations des paysans dans le zodiaque, car les autres représentations qui figurent dans ce vitrail ne sont pas des représentations de paysans. On le sait, évidemment, aussi bien par l'archéologie que par les textes. Alors, vous m'interrogez sur le repas qui figure là-haut dans le vitrail du zodiaque. Ça ne peut pas être un paysan. Un paysan au Moyen Âge, outre le fait évidemment que il a un étrange couvre-chef, c'est moins ce détail-là que d'autres bien plus importants. En premier lieu, d'abord, c'est qu'il a dressé une table devant lui sur des tréteaux et que sur cette table, on y a mis une nappe. Il n'y a pas de nappe dans les maisons paysannes du Moyen-Âge. Hein, il n'a qu'une vaisselle tout à fait rudimentaire et sa table est nettement moins garnie. La maison que nous avons là est une maison qui est représentée comme étant celle d'un seigneur. Ça n'est pas un paysan.
Donc il faut que nous apprenions à lire les vitraux ou les représentations du Moyen-Âge avec non pas les yeux de l'homme d'aujourd'hui, avec une matérialité ou avec une réalité matérielle qui n'est pas celle qu'on a au Moyen-Âge.
Ah ben non, c'est le problème de l'historien, c'est le problème de fond. Hein. C'est le péché mortel de l'historien, c'est l'anachronisme. Si on ne se reporte pas aux réalités médiévales, évidemment, on interprète de façon erronée les images que nous avons sous les yeux. Je vais vous en donner un deuxième exemple. Au mois de février, nous voyons un personnage qui est assis devant une cheminée et il tient à la main un tisonnier. Mais enfin, depuis quand au Moyen-Âge, le paysan aurait disposé dans sa maison d'une cheminée à hotte en pierre ? Non ! On sait depuis déjà longtemps que le paysan dans sa maison au Moyen-Âge se regroupe autour d'un foyer qui est la plupart du temps central dans la maison et que la fumée s'évacue par un trou en haut dans la toiture. Pour reprendre les termes d'un éminent spécialiste, la maison médiévale du paysan, elle est noire et enfumée.
Ce que, effectivement, diffère complètement de cette représentation dans le vitrail. On voit un personnage installé en face, justement, comme vous dites, d'une cheminée.
De la même façon, ça n'est pas le paysan qui est susceptible de porter les armes et de s'équiper avec un haume et un haubert et un cheval et une selle et des éperons et une lance et ainsi de suite. Nous avons là, en fait, des images qui nous rappellent le plus profond de la société médiévale. Il y a d'un côté les seigneurs laïcs, là, en l'occurrence, et de l'autre côté, les paysans qui doivent toutes sortes de taxes et toutes sortes de corvées. Et c'est ce que montrent ces images. C'est-à-dire qu'il faut se départir de l'anachronisme qui consisterait à voir dans ces cycles d'images calendaires une sanctification du travail manuel. En aucun cas, c'est un retour, et c'est tout à fait normal, aux réalités médiévales. D'un côté, le monde seigneurial, de l'autre côté, le monde des dépendants. Voilà.
Les laboratores.
Les laboratores et les bellatores, ils sont là. Il nous manque une troisième catégorie, les oratores, mais là, ils sont là en permanence, hein, d'un bout à l'autre, et tout spécialement dans le vitrail du zodiaque. Ça, c'est...
Donc, on a tenu compte, effectivement, de la trifonctionnalité de la société.
Ah ben, le discours de politique et sociale des élites médiévales est là, tout à fait omniprésent. Et puis, je ne comprends pas qu'on ne s'en soit pas rendu compte plus tôt. Enfin, je veux dire, c'est le monde médiéval, il est bien là.
Nous sommes à Radio Grand Ciel, dans le studio avec Georges Bonnebas, qui nous parlait de la trifonctionnalité de la société. Dans les verrières de la cathédrale de Chartres, nous parlions des oratores, des laboratores et des bellatores. On disait que dans le zodiaque, on a les laboureurs, on est le labeur du paysan, de la ronde de l'année. On a des représentations dans les verrières de chevaliers, dans leurs armures. Et maintenant, peut-être, vous voulez continuer votre propos, cher Georges Bonnebas.
Oui, c'est ces bellatores, si on les représente, c'est qu'en même temps, on veut aussi, et là ça nous renvoie un peu à une espèce de symbolisme, on nous renvoie à une autre réalité. Cette réalité, elle est contenue dans toutes sortes de discours et d'écrits du Moyen-Âge, hein, tout au long du Moyen-Âge et d'ailleurs depuis l'Antiquité. Eh bien, c'est les âges de la vie. Les âges de la vie, c'est-à-dire qu'on y voit, et Jacques Le Goff jadis avait souligné cela, il avait bien repéré qu'il y avait au moins deux scènes qui avaient l'air d'être des intermèdes printaniers et chevaleresques. Oui, c'est dans cette voie-là qu'il faut poursuivre, parce qu'en fait on a là des représentations qui nous représentent les quatre âges de la vie, hein. Et on y a la représentation de l'enfant avec ce personnage un peu l'air d'un chérubin qui tient des fleurs là qui viennent de s'ouvrir. On y a ensuite ce que en latin on appelle le juvenis, hein, c'est le jeune, et celui-là c'est le jeune, mais c'est le jeune formé à l'art militaire, hein, et on le voit donc avec tout son équipement. Et puis on a un peu plus haut dans la verrière du zodiaque la représentation de l'homme fait, l'adulte installé, c'est celui qui est à sa table, bien assis, et qui se prépare donc à manger. Et puis enfin, on a la représentation du vieillard, le Sénex, il est en bas, là, devant sa cheminée, en train de se chauffer au mois de février. Voilà, on a là la représentation, les quatre âges de la vie. Ils sont là.
Ce qui renvoie aux quatre sens de lecture qu'on peut trouver dans les images du
Moyen-Âge. Ce qui renvoie aux quatre sens de lecture, ce qui renvoie évidemment aussi aux quatre saisons. Hein, et ça a été étudié par une spécialiste il y a quelques années maintenant. Et c'est tout à fait classique, bien qu'on ait aussi des représentations de deux saisons seulement. Exemple ici à Chartres, eh bien, au porche nord. Au porche nord de la cathédrale, la représentation calendaire est organisée en deux saisons, été et hiver. Et là, on y a encore la confirmation qu'on est bien en présence d'un calendrier anglais, puisque est gravé dans la pierre le nom de l'hiver, et normalement la forme latine régulière c'est IEMS, H-I-E-M-S. Or là, nous n'avons pas cette forme régulière, mais nous l'avons prononcée à l'anglais, c'est-à-dire traduit en termes alphabétiques qui permettent de faire porter l'accent sur la finale, hein, car il est écrit YEMPS, avec un P entre le M et le S. C'est une des anomalies, entre guillemets, qu'il faut attribuer en fait à la provenance géographique de l'équipe des sculpteurs qui a travaillé ici, élément que l'on peut ajouter aux autres que j'indiquais tout à l'heure sur la provenance britannique.
Donc non seulement les images vont circuler dans tout le monde chrétien, par l'échange de manuscrits, par des reliquaires, etc. Mais en plus, on a déjà une Europe où les artistes ont circulé.
Oui, ils circulent. Hein. Bon, on a l'exemple bien connu de l'architecte Guillaume de Sens qui va travailler sur le chantier de Canterbury. Bon, je ne donne que cet exemple-là, mais il y en a bien d'autres. Mais je voudrais revenir sur les seigneurs et les paysans dans les représentations calendaires, car les gens du Moyen-Âge y ont ajouté autre chose. Et je m'inspire là en la matière des travaux de Jean-Claude Schmitt sur la raison des gestes dans l'Occident médiéval, et puis surtout avant lui, un livre difficile à lire, mais tout à fait passionnant, maintenant, de Jean-Claude Bonne, hein, qui s'intitule « De face et de profil » et qui étudie le tympan de Conques. Or, eh bien, quand on regarde attentivement le vitrail, on s'aperçoit que le discours qui est tenu à l'égard de ces laïcs que l'on représente est un discours classificatoire. Nos représentations seigneuriales, hein, sont toutes soit de face, soit de profil. C'est-à-dire les bonnes représentations dans l'imaginaire des élites médiévales. À l'inverse, toutes les représentations des paysans qui sont faites sont toutes, on dirait de nos jours, de trois quarts. Ce serait commettre un anachronisme, hein, parce qu'au Moyen-Âge, on ne dit pas de trois quarts, on dit oblique. Et l'obliquité, c'est aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. C'est-à-dire que derrière l'emploi de ce terme, il y a évidemment la désignation péjorative de la fourberie. Le paysan est d'abord un fourbe.
Donc, par la représentation des images, des faces, on va déjà donner un autre message. Alors, les chérubins et les séraphins, effectivement, on le sait, dans les vitrails, sont toujours deux faces.
Mais
donc, mais pourquoi est-ce qu'on estime que les...
Dieu aussi. Et Dieu aussi est représenté de face.
Donc là, il faut analyser dans les images non seulement ce que l'on voit, mais chercher toujours le message caché derrière.
Oui, bah il est caché. Non,
il est caché
qu'aux yeux
pour
des
nous.
Ignorants, c'est-à-dire que aux yeux des gens qui sont sans cesse dans le péché d'anachronisme. Les gens du Moyen Âge ont tellement écrit que nous avons à notre disposition, je dirais presque tous les documents textuels qui nous permettent de trouver les références, les raisons. Alors il y a dans les lectures, pour les gens qui voudraient un peu approfondir, il y a évidemment toute l'œuvre, par exemple, de mon chanoine préféré, hein, qui était aussi un peu comme moi pédagogue, hein, c'est Hugues de Saint-Victor, c'est à lui qu'il faut renvoyer, toujours. Toujours, bien davantage qu'à des textes plus ou moins ésotériques, comme ceux, par exemple, de Guillaume Durand, auquel on fait souvent... c'est un symbolisme ésotérique qui a été très mal vu.
Même à son époque.
Hein, oui. Ces textes ont été censurés, condamnés. Hein, c'est donc leur validité n'était pas universelle.
Alors, pour ces ouvrages que l'on trouve dans la bibliothèque diocésaine, on peut, pour les auditeurs qui s'intéressent, aussi renvoyer à l'article que vous avez écrit dans Vitria, la revue d'études sur le vitrail, que vous pouvez peut-être encore trouver au Centre international du vitrail à Chartres. C'est un article qui permet déjà de prendre connaissance de la bonne interprétation des images, qu'il faut toujours resituer dans son contexte médiéval.
Médiéval, forcément. Oui.
Médiéval. Alors, nous sommes malheureusement déjà arrivés à la fin de notre émission. On va se retrouver sans doute dans une deuxième émission où Georges Bonneba, historien, va nous parler de l'analyse justement de l'image qui est le reflet d'une histoire, l'histoire de la culture matérielle. Et on va voir donc les relations entre les images, l'Église et la société chartraine au Moyen-Âge, puisqu'on va parler des images dans la cathédrale de Chartres. Donc merci beaucoup Georges Bonneba. À bientôt dans une autre émission où on va approfondir le sujet aujourd'hui effleuré.
De l'œil à Dieu.